Philippe qui est là, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes président du directoire d'Euronews, la chaîne pan-européenne bien connue. Et dans la conférence, avec Paolo Garimberti, vous avez dressé un bilan assez pessimiste de l'identité européenne et de l'esprit européen. Georges Semprin, qui nous a quittés en juin dernier, qui était un Européen convaincu, dans son dernier livre, Une tombe au creux des nuages, cite Husserl, qui disait en 1935, « Le plus grand danger pour l'Europe, c'est la lassitude ». Aujourd'hui, vous le rappeliez dans la conférence, seuls 10% d'Européens se sentent d'abord Européens. Comment expliquer cet essoufflement actuel de l'Europe et de l'esprit européen? Comment expliquer justement cette lassitude actuelle qui touche l'Europe 70 ans après la situation du Husserl?
Eh bien, vaste sujet, et puis c'est difficile d'être concurrentiel quand vous sortez une citation de Husserl, donc d'abord, je ne suis pas pessimiste en soi, ou alors pessimiste actif, comme on dit, puisque ça n'empêche pas d'être actif, le fait d'être pessimiste, et il ne faut pas être résigné, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que, je dirais, l'empathie pro-européenne a disparu un peu avec le temps. D'abord, du fait que le fait fondateur de l'Union européenne, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, a un peu disparu des esprits, et à part quelques esprits éclairés comme ceux des élèves de l'École normale supérieure, je ne suis pas sûr que tous les étudiants de France... Eh bien, l'histoire en tête, l'histoire de l'Europe, et sachent tous à quel point l'Europe est importante pour éviter les conflits. Donc il y a ça, d'une part. D'autre part, le fait que l'Europe, le corpus européen, c'est-à-dire le Conseil, la Commission, etc., a un caractère très bureaucratique et manque un peu de visibilité politique, ce qui fait qu'on a du mal à s'identifier à l'Europe. Et puis le troisième facteur, c'est la crise économique qui fait que chacun se recroqueville un peu sur soi et qu'on assiste à une montée du protectionnisme, et le protectionnisme lui-même engendre le nationalisme. Donc tout ceci fait un melting pot un peu négatif, mais... l'histoire est faite de crises. Alors, je ne sais pas si on est dans un cycle de Kondratiev, de période de 50 ans, ou dans le cycle du port d'une période de 7 ans, mais je pense qu'on sortira de ce creux et qu'on va retrouver une pente ascendante.
Donc, pas si pessimiste que ça.
Non, je ne suis pas pessimiste, non, je pense qu'on va y arriver. De toute façon, ce qui est très important, c'est que les conflits ne se résolvent plus par la guerre de nos jours en Europe, ils se résolvent par la discussion. Donc effectivement, on est un peu exaspéré de voir des hommes politiques, des chefs d'État qui passent leur temps à discuter sans conclure, etc. Mais c'est quand même mieux que de se faire la guerre. Il y a encore 50 ans, on se faisait la guerre pour ça, donc tout ça est très raisonnable. Moi, je vois plutôt l'Europe comme... un peu un chaudron bouillonnant d'innovation politique, parce qu'on est quand même la seule région du monde où vous avez 27 pays qui sont en même temps des nations, qui essayent de travailler ensemble et de constituer quelque chose de commun. Donc ça, c'est unique au monde, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc moi, je trouve ça à la fois étonnant et sympathique à regarder.
Oui, justement, vous évoquiez peut-être une croissance ou une montée des nationalismes en Europe. En même temps, est-ce que vous pourriez, par exemple, lier les crises des identités nationales dans certains pays européens d'aujourd'hui, tel que le débat avait été lancé en France à tort ou à raison, mais tel qu'il peut également se dérouler en Belgique ou en Suisse, où on prône également l'idée de la déchéance, par exemple, de la citoyenneté nationale? Est-ce que vous pourriez donc lier la crise des identités nationales dans les pays d'Europe à une crise de l'identité européenne en tant que telle aujourd'hui, justement, au sein de l'Union européenne ou de l'Europe en général? Ou quel lien faites-vous tout simplement entre ces deux choses?
L'identité européenne, comme on le disait dans la conférence, il n'y en a pas beaucoup. Mais je dirais, elle n'est ni en progrès ni en recul. En fait, il n'y en a pas beaucoup depuis l'origine, je dirais. Donc il n'y a pas tellement de lien entre les deux. Non, je trouve que la crise d'identité nationale, elle est plutôt liée à la crise économique et au fait que... En fait, c'est le refus de la globalisation, ce que Arnaud Montebourg avait appelé la demande de démondialisation, c'est-à-dire le fait que la globalisation est perçue comme un danger. Et donc, il y a une demande de protection. Protection égale protectionnisme, égale nationalisme, égale revendication d'identité. Je pense que c'est plutôt lié à la crise.
Mais justement, ne pensez-vous pas qu'il est difficile de se définir comme étant européen quand on ne sait déjà pas se définir comme étant français ou allemand ou italien?
Non, parce que ça peut être une sortie par le haut, l'identité européenne. Ça peut être, si mon identité nationale est menacée, je vais compenser cette perte d'identité nationale par un plus d'identité européenne. Ça peut être au contraire une compensation, une porte de sortie. C'est pour ça que je pense qu'on aurait intérêt à renforcer les caractéristiques et les forces de l'identité de la citoyenneté européenne. C'est ce que je disais dans mon intervention, c'est que la citoyenneté européenne, ça devrait être quelque chose d'aussi valorisant que d'être citoyen romain dans l'Empire romain. C'est-à-dire à l'époque, dans l'Empire romain, vous aviez deux identités à l'époque. Vous aviez une identité nationale, vous pouviez être italien, espagnol, je ne sais pas comment, enfin avec les noms des pays de l'époque, quoi. Et puis vous étiez civis romanus. Ça avait de la classe, ça vous donnait des droits particuliers, etc. Tout le monde ne pouvait pas l'être, d'ailleurs, c'était presque électif. Ben, ça serait formidable si les citoyens européens, ça donnait des droits supérieurs aux droits nationaux. Et à ce moment-là, la revendication d'identité européenne serait très forte. Et pour moi, il me semble que la première étape, comme je le disais dans la conférence, ça serait que être citoyen européen implique non pas seulement ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire quelques droits assez limités, comme le droit d'être résident dans tout pays européen, le droit de voter aux élections européennes, quel que soit le pays de résidence, le droit d'être protégé par les consulats de tous les 27 pays de l'Union quand on est dans un pays tiers, mais tout simplement que ça donne le droit d'être citoyen de n'importe quel pays national. Si moi, Français, citoyen de l'Union européenne, je décide d'être citoyen italien demain, j'ai le droit. Ou citoyen roumain, j'ai le droit. Accessoirement, d'ailleurs, les Roumains qui sont en France pourrait revendiquer la citoyenneté française. Donc il est clair que ce n'est pas une affaire que les ministères de l'Intérieur accepteront de bon gré, parce qu'ils chercheront toujours à lutter contre cette forme d'assimilation presque automatique. Mais je pense que gérer raisonnablement, ça serait un pas fantastique vers la reconnaissance de la supériorité de la citoyenneté européenne par rapport aux citoyennetés nationales. Et on pourrait rajouter à ça quelques petites choses comme inventer, par exemple. Il y a un truc qui me frappe, c'est ça va vous paraître anecdotique, mais dans l'identité de chaque nation, il y a une sorte de fierté qui tient évidemment au symbole, l'hymne, le drapeau, etc. Mais un truc qui joue énormément aussi, c'est les décorations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout le monde en France veut avoir la Légion d'honneur. En Allemagne, tout le monde veut avoir la Kreuz, je ne sais plus quoi. En Angleterre, tout le monde veut être MB, ça veut dire Member of the British Empire. En Italie, c'est chevalier de je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de décoration européenne. Et ça, je pense que ça serait très motivant pour l'identité européenne que le président de la Commission, le président du Conseil décerne des décorations. Enfin, c'est ce que Napoléon appelait des hochets. Mais les hochets sont utiles. Et si Napoléon a inventé des hochets pour la France, pourquoi le président de la Commission ou le président du Conseil européen n'invente pas des hochets pour les Européens?
Cela rejoint une idée forte de la conférence, c'était que on a construit l'Europe, maintenant il faut construire ce qu'est être européen.
Voilà,
mais pour
exactement.
Ça, il faut une volonté politique forte, et vous l'avez rappelé. Le problème, est-ce que ce n'est pas justement qu'en Europe aujourd'hui, on est loin des leaders charismatiques pro-européens, Helmut Kohl, François Mitterrand, Jacques Delors, ou le président espagnol González. On manque de figures charismatiques qui porteraient cet esprit européen aujourd'hui?
Oui, c'est vrai, mais d'abord vous mélangez des figures nationales et des figures européennes, puisque González, c'était un Espagnol, c'était le leader de l'Espagne, mais Delors, c'était un vrai chef européen. Oui, mais en fait, ce qui manque maintenant, ça c'est un peu le passé, ça, il ne faut plus des héros, il faut passer à une phase plus politique, c'est-à-dire il faut des partis politiques européens qui s'engagent effectivement pour une élection pan-européenne, autre chose que les espèces d'élections nationales baptisées européennes, qui sont en fait nationales, auxquelles on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire clairement, l'élection du président de la Commission, par exemple, ça créerait un clivage droite-gauche très fort qui obligerait les partis européens à s'unir. Et à ce moment-là, vous auriez des programmes qui seraient identiques dans tous les pays européens. Et donc, vous auriez des alternances gauche-droite, comme dans n'importe quel pays européen. Ce serait beaucoup plus fort. Et les leaders émergeraient spontanément. C'est-à-dire, vous pensez bien que s'il y a des élections européennes et des partis européens, il y a beaucoup de gens qui vont se précipiter. Donc, les meilleurs surgiront, les leaders émergeront naturellement. Donc, il faut créer un processus qui permet à ces leaders d'exister. Et quelqu'un qui voudrait prendre la tête, qui voudrait devenir président de la Commission européenne, il ne pourrait pas se contenter d'être un Allemand nationaliste ou un Italien nationaliste ou un Slovène nationaliste. Il faudra qu'il ait une pensée pan-européenne, il faudra qu'il soit multilingue, il faudra qu'il soit capable de faire campagne dans n'importe quel pays européen, il faudra qu'il soit un vrai Européen, ça ne peut pas être autrement.
Et d'une toute autre question, sinon, comment évaluez-vous le rôle et l'efficacité du tandem, franco-allemand, donc Angela Merkel et Sarkozy, dans tout ce qui concerne finalement non seulement la gestion de la crise à l'heure actuelle, mais également à l'avenir finalement, l'image de l'Union européenne sur la scène mondiale?
Ben, il a un gros défaut, c'est d'être limité, mais il a un grand avantage, c'est de ne pas être trop contesté, parce que ça permet quand même d'avancer. Parce que de toute façon, s'il n'y avait pas ce tandem, il ne se passerait strictement rien. Donc au moins, on avance un minimum. Et puis maintenant, le duo devient trio, avec Mario Monti, qui a une très forte légitimité, qui se joint aux deux autres. Donc le duo devient trio, peut-être que Rajoy, maintenant qu'il est élu en Espagne, qui acquiert aussi une légitimité démocratique, va se joindre, ça va devenir un quatuor. Donc peut-être que ce duo va devenir trio puis quatuor, puis peut-être va devenir une sorte de directoire européen, mais au sens un peu plus large du terme, peut-être sans arriver à 17, parce qu'on ne peut pas gouverner à 17 non plus, ni a fortiori à 27. Il faut peut-être élargir 5, 6 personnes qui, ensemble, comme une sorte de... Vous savez, Giscard avait commencé par le G5, si je me souviens bien, au niveau mondial. On pourrait peut-être avoir un G5 européen et gérer l'Europe, au moins la zone euro, avec 5 personnes à très forte responsabilité et très engagées.
Pour finir, est-ce que vous faites partie des 10%, ou plutôt des 90% des Européens qui pensent...
Non, je suis dans les 10%, incontestablement.
D'accord, merci beaucoup.
Je vous en prie.